Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, la reconquête talibane en Afghanistan qui se précise. Les pays voisins s'inquiètent. L'Inde en a parlé avec le secrétaire d'État américain en visite à Delhi. Et la Chine a reçu une délégation talibane à Pékin. Les détails dès le début de ce journal. Le Pérou a investi son nouveau président. Pedro Castillo, d'origine modeste, issu de la gauche radicale, se présente en pourfendeur de la corruption. Trois défis majeurs l'attendent. La pandémie, la crise économique et la stabilité politique de son pays. Nous reviendrons sur les nouvelles mesures sanitaires décidées dans les Antilles françaises devant l'augmentation des cas de Covid. Et puis l'Éthiopie sera l'objet de notre dossier. Le conflit dans le Tigré implique maintenant d'autres régions du pays. Une guerre civile générale est-elle à craindre ? Élément de réponse en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Manuela Figi.
Bonjour à tous. L'avancée des talibans en Afghanistan ne laisse pas d'inquiéter. Profitant du retrait des troupes occidentales, ils reconquièrent peu à peu les régions du pays, avec Kaboul en ligne de mire. Et au même moment, une délégation talibane était reçue à Pékin par le ministre chinois des Affaires étrangères. Les détails avec Philippe Dova.
Moins de 20 ans après avoir été renversé, le régime taliban ne cache plus sa volonté de reconquérir le pouvoir et, profitant du retrait définitif des troupes internationales, multiplie depuis 3 mois des offensives éclairs sans précédent avec à la clé la reprise du contrôle de vastes pans du territoire afghan. Résultat, les forces afghanes ne contrôlent plus que Kaboul, les capitales provinciales et les principaux grands axes de communication. Les talibans se sont notamment emparés des zones de la province de Badakhshan, une région située à l'extrême sud-est du pays, frontalière sur 76 km de la région chinoise du Xinjiang, à majorité musulmane. Pékin redoute la menace d'une alliance entre les islamistes afghans et les séparatistes musulmans ouïghours qui peuplent le Xinjiang. Voilà pourquoi une délégation de 9 hauts responsables talibans, conduite par le numéro 2 et chef du bureau politique du mouvement, a été reçue pendant 2 jours par le ministre et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. À l'issue de ces rencontres, et selon le porte-parole de la délégation, les talibans auraient assuré à la Chine que le seul Afghan ne serait pas utilisé contre la sécurité de quelque pays que ce soit, et les responsables chinois auraient promis de ne pas interférer dans les affaires afghanes, mais au contraire d'aider à résoudre les problèmes et à amener la paix. Hong Kong, Philippe Dova pour Radio Vatican.
L'opposante numéro 1 au président bélarusse reçu par Joe Biden, Svetlana Tikhanovskaya, qui vit en exil, était à la Maison Blanche. Elle s'est félicitée de cette marque de soutien des États-Unis. Le président américain, pour sa part, a affirmé que son pays se tenait aux côtés du peuple bélarusse dans sa quête de démocratie, alors que sur place, le président Loukachenko s'évertue à réprimer toute forme de contestation. Diplomatie toujours avec cette rencontre à Genève entre représentants américains et russes. Objectif, restaurer des relations abîmées dans le sillage du dialogue initié entre Joe Biden et Vladimir Poutine, même si les sujets de discorde ne manquent pas. Les deux délégations ont qualifié leurs échanges de substantiels et de pragmatiques. Elles ont convenu de se retrouver fin septembre. Déclaré vainqueur de la présidentielle du 6 juin, le 19 juillet dernier seulement, à cause des multiples recours de son adversaire, Pedro Castillo a prêté serment hier à Lima. Le nouveau président du Pérou, expression de la gauche radicale et d'origine paysanne, a promis une bataille contre la corruption et une réforme constitutionnelle. Jean-Charles Puzolu.
C'est coiffé de son traditionnel chapeau blanc que Pedro Castillo est apparu aux 33 millions de Péruviens pour recevoir solennellement l'écharpe présidentielle des mains de la présidente du Parlement. Je jure devant Dieu, devant ma famille, les paysans, les peuples indigènes, les pêcheurs, les médecins, les enfants, les adolescents, que j'exercerai ma charge de président de la République, a déclaré le nouveau chef de l'État au jour anniversaire du bicentenaire de l'indépendance du Pérou. Je jure pour un pays sans corruption et pour une nouvelle constitution, a ajouté l'ancien syndicaliste de 51 ans. À ses détracteurs, il a démenti les velléités d'expropriation qu'il lui avait attribuées. C'est totalement faux, a dit Castillo. Nous voulons que l'économie soit en ordre. Des propos pour assurer les milieux financiers, inquiets d'un virage radical à gauche dans ce pays marqué par plusieurs décennies de politiques économiques ultralibérales. Il a cependant en ligne de mire la constitution de 1993, adoptée sous la présidence Fujimori, qu'il accuse de favoriser à outrance l'économie de marché. Pedro Castillo annonce vouloir réformer la charte fondamentale. Ça s'appelle souffler le chaud et le froid.
Jean-Charles Puzolu. Et la conférence épiscopale péruvienne lance un appel à défendre fermement les institutions démocratiques et à œuvrer pour la réconciliation et l'amitié sociale. Restons vigilants, telle est l'invitation des évêques à l'occasion des célébrations du bicentenaire de l'indépendance du Pérou qui se déroule jusqu'au 30 juillet. Un point sur la pandémie de Covid. De nombreux pays affrontent une hausse continue des cas liés à la progression du variant Delta. C'est le cas du Japon où se déroulent en ce moment, vous le savez, les Jeux Olympiques et de l'Indonésie aussi. D'autres pays renouent avec des restrictions comme les États-Unis où le port du masque redevient obligatoire pour les personnes vaccinées dans les zones dites à risque. Et puis l'incitation à la vaccination devient plus pressante. Les entreprises Facebook et Google affirment qu'elles n'accepteront désormais que les personnes vaccinées dans leurs locaux, à l'instar d'autres organismes. Aux Antilles françaises, les autorités sanitaires sont débordées par les contaminations. Il faut dire que dans ces territoires épars de l'archipel caribéen, la vaccination justement ne rencontre pas un franc succès. En Guadeloupe et Martinique, ce sont environ 20% des habitants qui ont reçu une injection, ce qui contribue à la circulation du virus. Le gouvernement français vient d'ailleurs de décréter l'état d'urgence sanitaire sur place et la Martinique sera reconfinée dès samedi. La correspondance de France Emmanuel.
Un chiffre, un seul, pour comprendre la situation dans les îles françaises de l'arc des Antilles. Le taux d'incidence de la Covid-19 était de plus de 1800 cas pour 100 000 habitants à Saint-Martin, partie francophone, et à Saint-Barthélemy, alors que le gouvernement français à Paris a fixé le seuil d'alerte à 50 cas pour 100 000. C'est donc sans surprise que ces deux pays, depuis lundi soir, tout comme la Guadeloupe depuis la nuit dernière, sont en état d'urgence sanitaire. À leur tour, après la Martinique depuis le 14 juillet dernier. La Martinique, où les chiffres de la contamination sont tels que les autorités ont d'ailleurs réinstauré le confinement à partir de samedi prochain pour une période de 3 semaines. Les déplacements sur place se feront sous condition, pas plus de 10 km à la ronde, entre 5h et 19h. Et un couvre-feu en vigueur à 21h à Fort-de-France est désormais avancé à 19h. Des mesures pour inverser les chiffres de la Covid dans l'île, selon les autorités. Dans le même temps, les opposants au vaccin, au pass sanitaire, ne désarme pas. Ils multiplient les appels à manifester et à braver les restrictions au nom de leur liberté fondamentale, disent-ils. Fort-de-France, France Emmanuel, Radio Vatican.
Emmanuel Macron reconnaît une dette de la France envers la Polynésie. En concluant sa visite dans cet archipel français du Pacifique, le président de la République a évoqué les essais nucléaires qui ont eu lieu entre 1966 et 1996 sur décision de Paris. Ce dossier affecte la relation entre l'archipel et l'Hexagone, a-t-il reconnu. Il a promis que les victimes de ces essais, dont certains souffrent de cancer, seront mieux indemnisées. La question irrésolue de Chypre au cœur d'un sommet tripartite hier entre Chypre, donc, la Grèce et la Jordanie. Leurs dirigeants ont fait le vœu d'un règlement juste, complet et viable de cette question et n'ont pas manqué, ce faisant, d'adresser un message clair à la Turquie, dont les appétits en Méditerranée orientale aiguisent les tensions. À Athènes, Alexia Kefalas.
Alors que la Grèce et son premier ministre Kyriakos Mitsotakis accueillaient hier un sommet trilatéral avec Chypre et la Jordanie en présence du roi Abdallah II de Jordanie et du président chypriote Nikos Anastasiadis, le regard des trois dirigeants a été tourné vers la Turquie. Après avoir expliqué, partagé la Méditerranée orientale et leur volonté d'approfondir la coopération tripartite commençant en 2018, ils ont renouvelé leur soutien à un règlement juste, complet et viable du problème chypriote en respect du droit international et des résolutions de l'ONU. Une déclaration qui sonne comme une réponse à Ankara après l'annonce la semaine dernière du président turc Erdogan et du leader chypriote tatar de rouvrir la ville fantôme de Varosha dans le nord occupé de Chypre en violation de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ancienne cité balnéaire a été abandonnée depuis l'invasion de l'île par l'armée turque en 1974, mais Ankara voudrait l'exploiter touristiquement. Or, les propriétés de cette ville appartiennent à des Chypriotes qui ont tout quitté en une nuit. Le bras de fer n'est donc pas terminé. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
Après la Californie, la Sardaigne, le nord d'Athènes, c'est au tour du Liban d'être touché par un virulent incendie. C'est la région Dakar, dans le nord, qui est concernée. Les flammes ont ravagé des hectares de forêt et menacent des habitations. Les autorités libanaises, pauvres en moyens, ont demandé l'aide de Chypre. Les États-Unis vont rendre à l'Irak quelques 17 000 pièces archéologiques datant de près de 4 000 ans et pillées au cours de ces dernières décennies. C'est une restitution sans précédent. Et puis cela fait 8 ans aujourd'hui qu'on est sans nouvelles de Paolo Dall'Oglio, ce prêtre jésuite italien, grand amoureux de la Syrie où il a passé une grande partie de sa vie, probablement enlevé à Raqqa, qui était en 2013 le fief de l'État islamique dans le pays. Nombreux sont les cas de disparition et d'enlèvement jamais élucidés en Syrie. Ils sont estimés à des dizaines de milliers. Le conflit qui sévit au Tigré, en Éthiopie, ne marque aucun répit. Cette région est le théâtre de combats depuis l'offensive lancée par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en novembre dernier contre les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré, les TPLF. Ces violences ont déjà fait des milliers de morts et de déplacés et provoqué une grave crise humanitaire. La région de l'Amara a appelé dimanche dernier tous ses citoyens à se mobiliser contre les forces tigréennes qui se sont emparées de la capitale régionale Mekele en juin dernier. Les autorités de la province de l'Afar avaient lancé un appel similaire deux jours auparavant. Alors, peut-on craindre une extension du conflit et quels sont aujourd'hui les rapports de force? L'analyse tout de suite de Patrick Ferras, il est spécialiste de l'Éthiopie, président de l'association Stratégies africaines.
Les Tigréens, donc, qui ont repris la main depuis la fin du mois de juin, à la surprise générale, ils ont réussi à mettre en déroute l'armée éthiopienne. Donc, souhaiter simplement une chose, c'est que, un, on leur redonne ce statut de région qui leur a été supprimé depuis 8 mois, c'est-à-dire qu'ils aient un budget, qu'ils aient accès aux services, ainsi de suite, qu'ils n'ont plus. Et en même temps, ils ont dit qu'ils allaient reprendre leurs frontières. Pour protéger leurs flancs, mais aussi pour pousser des pions, ils sont protégés sur leurs frontières communes qu'ils ont avec la région Afar, et aussi au sud avec la région Amara, puisqu'ils se sont déjà opposés aux milices Amara, qui ont récupéré des terres que, soi-disant, les Tigréens avaient volées il y a 30 ans.
Initialement, s'agissait-il d'un conflit avant tout territorial ou politique ?
C'est politique, c'est une rivalité de pouvoir entre un premier ministre qui veut étendre son pouvoir sur la totalité de l'Éthiopie et les Tigréens qui ont perdu de leur pouvoir, si l'on peut dire, par rapport à l'arrivée du premier ministre en 2018. Et donc c'est plutôt un conflit politique au départ. Bon, après est venu se greffer là-dessus la question d'une petite partie de la terre au sud-ouest du pays, de la région du Tigray, que ont récupéré les milices Amara.
Le président de l'Amara a appelé ses citoyens à se mobiliser contre les forces tigréennes. S'oriente-t-on vers un conflit à caractère ethnique?
Toute la région Amara ne sera pas, si vous voulez, un conflit ethnique vis-à-vis de la région tigréenne. Bon, en revanche, ils vont essayer de mobiliser pour avoir un petit peu plus de troupes, tout simplement parce que, si vous voulez, l'armée a été défaite, si l'on peut dire. Elle est en train d'essayer de se recomposer et en même temps que les milices de certaines autres régions viennent, le seul sursaut que l'on peut avoir pour éviter que les Tigréens récupèrent cette terre-là, c'est de faire monter la jeunesse et de faire une espèce de conscription, si l'on peut dire, pour défendre les terres Amara.
Quelles sont actuellement les forces en présence aujourd'hui, qui a la main en quelque sorte?
Je dirais que les Tigréens ont la main, tout simplement parce qu'ils sont en mouvement. Et vous le voyez tous les jours, on voit des actions qui sont menées en région Afar, en région Amara, alors que l'armée éthiopienne fuit un petit peu le théâtre, mais elle est en train d'essayer d'avoir un break, si l'on peut dire, pour essayer de se reconstituer. Alors les forces en présence, vous avez une force armée à peu près de 70 000 hommes maximum à s'opposer à ce que l'on pensait à un moment 250 000 hommes chez les Tigréens. Mais comme la totalité de la population maintenant a pris fait et cause pour ce front de libération du Tigré, je pense qu'on peut doubler la mise. On est à peu près à 500 000 personnes du côté tigréen. Donc ils ont largement la main. Les forces armées éthiopiennes vont être renforcées par des milices, mais si vous voyez, ce sont pas des combattants. Ce sont des gens qui sont peut-être là pour faire des actions, si l'on peut dire, policières, mais pas pour aller faire la guerre. Et qui plus est, ils vont être à côté d'armées qui est déjà en déroute. Donc on voit mal comment cette armée va pouvoir les former alors qu'ils sont déjà en train de fuir.
Peut-on craindre un enlisement de ce conflit avec des conséquences de plus en plus graves d'un point de vue humanitaire ?
Je pense que M. Abiy Ahmed n'a pas envie de faire d'efforts vis-à-vis des Tigréens et les Tigréens ne lui font pas plus confiance. Donc je pense qu'on va aller au durcissement du conflit. Les Tigréens vont sûrement demander beaucoup plus et surtout à l'approche de la nomination du nouveau Premier ministre. Au niveau humanitaire, oui, il y a des répercussions assez graves, si l'on veut dire, et on le sait déjà en région du Tigray. Et plus les conflits vont s'intensifier en région Amara, plus même les Amara auront besoin d'aide humanitaire, ainsi de suite. Voilà. On ne voit aucunement dans le dernier mois qui vient de s'écouler un seul geste de la part de M. Abiy Ahmed. Tout le contraire, il les a traités de cancer de l'Éthiopie, vous voyez, donc avec des propos assez haineux. On ne voit pas comment il va se mettre au dos d'une table. Bon, sachant qu'aujourd'hui, la communauté internationale ne bouge pas, ou n'a que très peu de moyens, seuls les Américains sont un petit peu aux commandes pour essayer de faire avancer un peu les négociations, les discussions entre les deux parties, si l'on peut dire. Mais sans cet acteur, les Américains, faut pas compter sur l'Union africaine, faut pas compter sur l'Union européenne et pas non plus sur les Nations unies.
Voilà, interrogé par Hélène Détombe, Patrick Ferras, spécialiste de l'Éthiopie, président de l'association Stratégies africaines, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre écoute fidèle. On se retrouve à 13h hors de Rome, toujours pour un nouveau journal d'information vaticane et internationale. Belle journée à toutes et à tous.